Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Instant Japon. La dernière fois, nous avions consacré l'émission à la définition de ce qu'était la geisha. Dominique Buisson, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les principaux traits ?
Alors la geisha, c'est celle qui exerce dans les arts. Ces arts sont principalement le chant, la danse, la musique, l'art de la conversation. J'avais indiqué la dernière fois qu'il y avait deux personnages en fait à considérer sous ce vocable. Il y a la geisha, geisha, qui est l'aboutissement de ce savoir. Et puis il y a l'apprenti geisha, qui est la danseuse, comme son nom l'indique, c'est la maiko, la danseuse. Ces deux personnes sont encore aujourd'hui une sorte de réceptacle des arts traditionnels du Japon. C'est pour ça qu'elles sont encore demandées, curieusement, même dans un Japon extrêmement contemporain.
Alors je suis très intriguée toujours par le maquillage. Qu'a-t-il de particulier pour l'une et pour l'autre ?
Eh bien, comme pour le vêtement, pour l'équipement général, le maquillage de la geisha est plus discret que celui de la maiko. Mais les deux ont pour caractéristique le blanchiment du visage. Et ça, c'est une tradition japonaise de la beauté qui remonte, on va dire pour simplifier, à l'an 1000. C'est le maquillage des princesses de la cour impériale. Alors ce type de maquillage, ce blanchiment, a pour but de faire oublier le vrai visage, de nier même la personnalité. La beauté ne sera donc que la gestuelle, que le rôle, que la beauté du rôle, et non pas l'individualisation de la personne. Ça, c'est très très important à signaler. C'est donc un peu comme le masque du théâtre no. Le masque de la geisha ou de la maiko, ce maquillage, c'est un masque. Il ne faut pas s'y tromper. C'est donc un travail, de représentation.
Mais ça veut dire que sa beauté personnelle tient peu de place finalement, ou une certaine laideur peut être arrangée.
Alors, quand on les regarde très souvent en dehors de la scène, donc à la sortie du bain par exemple, du bain public, ce sont des jeunes filles très souvent très très ordinaires. Elles peuvent même avoir un physique relativement ingrat, c'est pas tellement ça le problème. Mais une fois qu'elles sont maquillées, qu'elles ont endossé le rôle, c'est leur gestuelle qui devient leur beauté et effectivement, on en oublie leurs caractéristiques propres. Sauf que j'ai le souvenir d'une avec laquelle j'ai beaucoup travaillé photographiquement qui s'appelait Tsunemaru et elle louchait.
Ah.
Et donc, elle avait ce petit plus qui ramenait de la nature dans l'abstraction. Et elle était très appréciée pour ça. Donc, vous voyez, c'est pas si simple, en fait.
Effectivement. Alors, admettons, comment procède-t-elle pour ce maquillage ?
Alors, on va prendre le maquillage de la Maiko parce que c'est le plus complet, le plus spectaculaire. Donc, elle commence par le nettoyage méticuleux du visage, voire le rasage du visage, de manière à pouvoir poser une base huileuse, qui est une huile parfumée, qui sert d'ailleurs à coller également les sourcils. Ensuite, on procède à l'étalement d'une crème blanche qui est appliquée au pinceau, un pinceau large, dans l'ordre joue, cou, menton, centre du visage. C'est très précis là aussi, hein, ça fait partie du rituel. Cette crème, qu'on appelle le Neri O Shiroi, était autrefois à base de plomb ou de mercure. Ce qui n'était pas très...
Non, ce n'était pas très sain.
Bon.
Ça devait faire des ravages quelque part sur la peau, non ?
Alors oui, ça posait beaucoup de problèmes. C'est pour ça que, heureusement, ultérieurement, on a réussi à changer les procédés de fabrication. Et aujourd'hui, je vous rassure, on n'a plus ce problème-là. Alors, quand on va passer cette crème blanche sur l'ensemble du visage, on va laisser sur la nuque des peaux de jambes nues. Ce qu'on appelle les peaux. Donc, soit il y a deux jambes nues, deux ponts, quoi, nues, soit trois, selon les circonstances.
C'est érotique ?
C'est très, très érotique. Pour un japonais, la nuque est un élément de base de l'érotisme. Donc là, comme le kimono est déjeté très largement en arrière, que le maquillage du cou descend très bas,
oui.
Hein, pratiquement jusqu'aux omoplates, de manière à mettre en évidence la rondeur de cette nuque. Évidemment, ces deux languettes ou trois languettes de peau nue qui sont à la base des cheveux, c'est très très érotique pour un japonais.
Alors, en quoi consiste l'étape suivante?
Alors, l'étape suivante consiste à poser un rouge léger, très léger, sur le front, les paupières et les ailes du nez pour creuser l'ensemble. Parce que la japonaise considère qu'elle a un visage un peu lunaire, qui manque de relief, et donc on va structurer le visage avec ça. Par le maquillage. Et donc, pour pas que ça soit non plus trop marqué, on va poser par-dessus une poudre, qu'on appelle le Kona Oshiroi, qui va matifier l'ensemble. Et ensuite, une fois que l'ensemble est posé et matifié, on va simplement souligner les sourcils et les cils en noir. Tôt dans sa carrière, d'ailleurs, la Maiko peint ses sourcils et le contour de ses yeux en rouge. Avec le temps, elle va ajouter progressivement du noir au rouge. Et finalement, lorsqu'elle deviendra geisha, les sourcils et le contour des yeux seront entièrement noirs. Là encore, il y a une progression qui permet de situer de manière très visible à quel stade la jeune fille est dans son perfectionnement. Autre caractéristique de ce maquillage, je suis sûr que vous alliez me poser la question, c'est la bouche rouge. La petite bouche de la taille d'une cerise. Eh bien, le rouge à lèvres se présente sous la forme d'un bâtonnet qu'on fait fondre dans l'eau. Et ensuite, on va ajouter du sucre cristallisé pour obtenir plus de brillance.
Et le baiser sur la bouche doit avoir très bon goût.
Ah oui, ça avoir très très bon goût. Mais elle n'est pas censée se faire embrasser sur la bouche.
Bon, d'accord.
Ça reste dans l'ordre du fantasme, donc on va le laisser de côté pour l'instant. Mais une chose à préciser quand même, c'est que dans l'une des cinq villes fleurs de Kyoto, celle qu'on appelle Gyonkobu, dans l'année qui suit ses débuts, la Maiko va maquiller seulement sa lèvre inférieure. Parce qu'on trouve ça encore plus joli, plus mignon. Et puis dès qu'elle aura passé ce stade d'une année, elle va colorer à ce moment-là les deux lèvres complètement en rouge. Mais ça n'existe que dans cette ville fleur-là, Gyonkobu. Alors le maquillage de la geisha, il est le même, hein, pour simplifier, mais il est moins marqué. Et moins marqué en couleur, il y a moins de rouge par exemple, hein, puisque j'ai dit que les éléments étaient soulignés en noir. Au-delà de 30 ans d'ailleurs, la geisha est autorisée à ne plus en mettre. Donc plus de blanchiment, elle a simplement le maquillage d'une femme ordinaire. C'est-à-dire un maquillage qui est assez sophistiqué, mais qui ne se voit pas en tant que maquillage. D'accord. Sauf pour les occasions spéciales ou pour des grandes cérémonies où là, elle va revêtir à nouveau le kimono, le grand kimono de danse et le maquillage classique.
Mais tout ce qui la concerne, elle, est souvent moins clinquant, moins voyant.
Voilà, c'est son expertise qui devient sa beauté et non plus simplement, sa fraîcheur de jeune fille.
Et la coiffure, alors, parce que ça n'a pas l'air d'être rien non plus. Semble bien compliqué.
Vous vous doutez bien que la coiffure va suivre exactement la même chose, le même chemin que le reste. Elle va être très spectaculaire et évolutive chez la jeune fille, chez la Maiko. Et elle va se stabiliser tout en restant très complexe chez la geisha. Sauf que chez la geisha, ce ne sera plus des vrais cheveux. Ce seront des perruques.
Ah bon?
Parce que justement, la coiffure est très compliquée. Oui. Et donc, elle ressemble à la coiffure qu'avaient les femmes au 19e siècle. Il y a des coques très compliquées. Et donc là, on porte une perruque. D'autant qu'on dit que comme les jeunes Maiko ont une coiffure faite avec leurs vrais cheveux et qu'on tire beaucoup dessus, elles perdent assez rapidement leurs cheveux à cause de ça. Certaines formes de violence sur le cuir chevelu, ce qui fait que quand elles deviennent adultes, peut-être que la perruque a été conçue peut-être à une époque pour
ça. À son utilité.
Voilà, et puis c'est devenu ensuite donc une habitude purement esthétique.
Instant Japon.
Quand on parle coiffure, ces coiffures, elles sont très compliquées. Quand on regarde dans les estampes japonaises, oui. On voit plein d'épingles partout, des coques bien noires, très jolies, etc. Mais il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des geishas, ce sont des courtisanes qui ont comme ça cette... on a l'impression qu'elles ont été piquées par un millier d'abeilles tellement il y a de trucs piquants partout qui ressortent. Là, ces épingles de cheveux, en grand nombre, ce sont les courtisanes. Hein, ce ne sont pas les geishas.
Mais alors, qui réalise ces coiffures ? On ne peut pas se le faire soi-même ?
Alors non, il faut évidemment un coiffeur spécialisé qui, sur une maiko, va mettre une quarantaine de minutes pour coiffer la jeune fille. Après avoir enduit ses cheveux de brillantine, voilà. Ensuite, avoir rajouté du rembourrage de cheveux artificiels, des extensions si c'est nécessaire, pour les boucles latérales par exemple, ou du papier tout simplement, même beaucoup plus simplement, pour donner du volume et donner de la tenue à la coiffure. La Maiko se rend chez son coiffeur donc à peu près une fois par semaine, et pour pas défaire sa coiffure pendant le reste de la semaine, eh bien elle va dormir sur des oreillers très hauts, qui ont souvent une base soit en porcelaine, soit en bambou, avec un petit coussin par-dessus, de manière à ce qu'elle appuie uniquement la nuque et que sa chevelure ne soit pas écrasée. Alors, j'ai dit tout à l'heure que toute la vie de la Maiko est marquée par cette mise en étape visuelle de son perfectionnement. La coiffure n'y échappe pas. Elle va porter successivement 5 types de coiffures différents. La plus connue, c'est la Warishinobu, où un ruban rouge très caractéristique se voit de devant et de derrière le chignon. Devant et derrière. Vers 18 ans à peu près, quand elle commence à être bien formée, elle va porter la coiffure qu'on appelle Ofuku, où le ruban est simplement situé à l'arrière du chignon. Pour les grandes occasions, elle va porter le yakko. Le sako, qui est encore plus compliqué, est porté le mois précédent son changement de col. Et à la fin, elle peut porter une perruque en shimada, c'est-à-dire la même forme que celle des geishas, mais pour certains types de danse. Vous voyez, donc là encore, c'est très, très codifié.
C'est très codifié, oui.
Alors la première, c'est celle qui fait le plus fantasmer, puisque Ware Shinobu signifie pêche fendue. Donc évidemment, il y a une connotation très érotique là-dedans. Donc là, c'est la coiffure qu'elle porte au début de son apprentissage. Quand elle fait la cérémonie du Omishidashi, qui est... la cérémonie qui la consacre en tant que Maiko, jusqu'au moment où elle va subir, entre guillemets, le Mitsuage, donc la défloration symbolique qui va la consacrer Geisha, c'est-à-dire à peu près pendant 3 ans, elle va porter cette coiffure-là, ce type de coiffure. Le ruban en soie rouge, qui se voit donc de devant et de derrière, est tacheté de blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle Kanoko. Le kanoko, c'est le fan, parce que c'est un petit peu comme les taches sur le plage du fan. Voilà. Donc évidemment, cette coiffure, c'est la plus caractéristique de celle de la Maiko. Après, le reste, ce sont des petites nuances que seuls souvent les spécialistes sont capables de repérer. Par exemple, le style ofuku, donc le deuxième type de coiffure, le chignon est plus bas, par exemple. Hein? Et le petit tissu rouge qui ne reste que sur l'arrière est plié de manière triangulaire. Voilà, c'est des petites choses comme ça.
Qu'il faut connaître.
C'est ce qui permet le repérage.
Oui. Voilà.
Donc, cette coiffure est portée durant sa formation jusqu'au mois ou la quinzaine qui précède son changement de col. Le changement de col, c'est une autre manière de dire défloration, hein, puisque le passage du stade de Maiko au stade de Geisha, c'est le passage à l'âge adulte. Là, il faut que ce soit très, très formalisé, ce passage. Donc, la cérémonie du changement de curl, la cérémonie du changement de coiffure, tout ça, c'est le moment le plus important, finalement, dans la vie d'une jeune fille, dans le milieu de la geisha, en particulier à Kyoto. Tout est très, très formalisé. Elle va porter aussi, parfois, des coiffures différentes pour marquer des occasions spéciales. Par exemple, on ne porte pas la même coiffure pour le nouvel an. On ne porte pas la même coiffure pour la veille du printemps. On ne porte pas la même coiffure pour la fête de Gion, qui est la très grande fête d'été de Kyoto.
Et qu'est-ce qu'on appelle le sakko alors ?
Alors, le sakko, c'est une coiffure qu'on va, pour simplifier, on va dire que la jeune femme porte à peu près quand elle a 21 ans. Ou plutôt si la mama-san de l'okiya la juge suffisamment mature, c'est la coiffure qui précède la cérémonie du changement de col. C'est une coiffure qui est très particulière, qui se repère très facilement parce qu'elle a des mèches qui sont tordues en boucle et une queue de cheval qui fait une sorte de pont. Et c'est avec cette coiffure qu'on, généralement, on utilise le maquillage où il y a trois jambes nues de peau sur la nuque. Alors cette coiffure, elle a le petit pont en question est coupé au bout. Et cette coupe de cheveux est faite par la mamassane dans la maison pour bien marquer que la jeune fille s'engage à devenir une geisha et donc à rester jusqu'à la fin de remboursement de sa dette, on va dire. Hein. Mm-hmm. Mais enfin, jusqu'à la fin de sa vie, dans le milieu, finalement, quelque part. Donc, cette coiffure-là, elle est portée relativement peu de temps, mais elle est extrêmement forte dans le milieu.
Et les geishas, alors ?
Alors, les geishas ont trois perruques, elles. Il y a le shimada, qui est la coiffure la plus connue pour les cérémonies. Il y a une autre forme de shimada qu'on appelle le tsubushi, pour le courant. Et puis, il y a une coiffure qui s'appelle le maeware, qu'on utilise lorsque, dans les spectacles, elle joue des rôles d'hommes. Donc, c'est une coiffure encore particulière.
Mais ça aussi, ça doit coûter très cher.
Oh, ça coûte une fortune, de toute façon. Tout ça coûte très, très, très cher, d'autant que ce sont des perruques pour la geisha, qui doivent être confiées à des professionnels pour la nettoyer, la peigner à peu près toutes les deux semaines. Elles sont fabriquées sur mesure, qui demandent à peu près deux semaines de travail. Et une perruque comme ça, coûte environ 500 000 yens. Alors, selon le cours de yens, on va dire que ça va entre 3 000 et 4 000 euros. Mmh. Ces cheveux sont enduits d'une sorte de gel pour la faire briller. Et pour la peigner, il faut une dizaine de peignes différents, selon les parties qu'on va peigner. Les cheveux sont plus ou moins serrés. Et donc, il y a là encore... Alors, ce sont des peignes souvent en bois de camélia ou des choses comme ça, qui sont aussi qui sont très coûteuses aussi, d'ailleurs, en passant.
Oui, parce qu'il y a la décoration de ces coiffures.
Alors, la décoration, ce sont essentiellement les peignes et surtout les épingles. Là encore, c'est un domaine qui est très codé. Les épingles à cheveux ornementales, qu'on appelle kanzashi, sont fabriqués à partir d'une gamme de matériaux très large. Hein. On va trouver par exemple le bois laqué, l'or, l'argent, l'écaille de tortue, très souvent, la soie, et puis d'une manière plus contemporaine, on peut même trouver des éléments en plastique.
Bon.
Enfin, bon. Il y a plusieurs styles, évidemment. Le plus connu, c'est l'Ogi Bira Kanzashi. Alors, Ogi Bira Kanzashi, il y a Ogi. Ogi, ça veut dire éventail, parce qu'en fait, on a une sorte de petite lame en forme d'éventail sur laquelle on accroche soit des petites pendeloques métalliques, soit des grappes de fleurs. À l'inverse, le Tama Kanzashi est très sobre. C'est pour ça qu'on va la remarquer plus facilement sur les coiffures des geishas. La tige est simplement décorée d'une perle. Mais attention, cette perle, qu'on appelle Tama, doit être rouge d'octobre à mai et verte de juin à septembre.
Donc là encore, on ne fait pas n'importe quoi.
Pas n'importe quoi.
Et quelle est l'épingle la plus remarquable alors ?
Alors la plus remarquable, c'est le Hana Kanzashi, c'est-à-dire l'épingle fleur, en forme de fleur. Ce sont des fleurs artificielles qui sont créées à partir de carrés de soie qu'on pince pour leur donner la forme d'un pétale ou d'une petite fleur, qu'on va ensuite enfiler sur des supports de métal pour les faire pendre, ou sur du carton pour en faire des sortes de bouquets. Celle des Maiko change selon l'occasion, mais surtout selon la saison. Chaque mois, on va donc avoir une épingle fleur différente.
C'est-à-dire qu'il en faut au moins 12.
Et enfin, au moins 12. Alors, par exemple, juste un exemple ou deux, un Kanzashi d'avril arborera des fleurs de cerisier et des papillons. Kanzashi du mois de mai montrera une glycine, par exemple. Évidemment, pour l'automne, on aura les chrysanthèmes. Enfin, chaque saison va avoir son épingle fleur particulière. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une coiffure particulière qui est adoptée pour les fêtes du Nouvel An. Eh bien, là encore, le Kanzashi qu'on va porter pour le Nouvel An est très particulier. Il ne représente pas de fleurs, il n'est même pas en élément artificiel, puisque c'est un vrai épi de riz qui est planté à l'avant de la tête. Aussi bien pour les Maiko d'ailleurs que pour les geishas. Parce qu'il y a une tradition importante qui dit que quiconque a 3 grains de riz dans la poche est censé devenir riche et chanceux. Comme on est au Nouvel An, il faut bien avoir devant soi des éléments de bon augure pour passer l'année.
Donc elles mettent les choses de leur côté.
Et voilà. Et donc les clients vont demander aux geishas ou aux maiko de leur céder 3 grains de leur coiffure. C'est pour ça que le Kanzashi du Nouvel An est très particulier.
Y a-t-il beaucoup de geishas au Japon, encore actuellement ?
Il en reste relativement peu. Elles auraient été 17 000 à la fin des années 80, et aujourd'hui, elles seraient moins de 1000, dont 200 à Kyoto. Mais alors, curieusement, grâce au cinéma, grâce au manga, grâce à des émissions de télévision, le métier semble attirer de nouveau de plus en plus de jeunes filles. Il y a même des étrangères qui postulent. Une Australienne qui a pratiquement réussi, mais elle n'a jamais été intégrée réellement. Mais enfin, bon. La majorité de ces demoiselles se trouve donc à Kyoto aujourd'hui, parce que c'est quand même là, à Kyoto, quand on pense geisha, on pense Kyoto.
Voilà, c'est là que se passe.
Mais il y en a dans beaucoup d'autres villes. Hein. Alors, il y avait un élément qui limite singulièrement l'apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut commencer cette éducation qu'à partir de l'âge de 15 ans.
Ah oui. Plus de petite fille.
Non. Par contre, quand on est dans le milieu, une petite fille du milieu, elle a tout vu, elle sait déjà tout faire.
Elle a senti les choses.
Bien sûr,
oui.
Et très souvent, d'ailleurs, c'est dans le milieu que ça s'auto-alimente. Mais officiellement, puisque la majorité sexuelle au Japon est 15 ans, on ne peut pas commencer avant l'âge de 15 ans cette éducation-là.
Bien écoutez, Dominique Buisson, il me reste à vous remercier pour ce merveilleux voyage dans l'intimité des geishas. Merci, Dominique Buisson.
Ben, je vous répondrai comme elle dans le langage de Kyoto, Okini. Merci pour votre attention.